19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver. Vous le savez, quel plaisir d'être avec vous chaque soir durant une heure jusqu'à 20h. 20h où nous sommes ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On papote pas pour parler. On commente l'actualité. On essaie d'apporter un regard avec une analyse un peu plus poussée. Mais surtout, pour certains débatteurs, on la décrypte. Ça, c'est les trois mots-clés. Ensuite, il y a les auditeurs au 01 53 48 3000. Vous nous appelez, vous participez avec votre franc-parler. Vous venez, vous saisissez le standard. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 1h. 19h30, le quoi de neuf, parce qu'on a des éditorialistes tous les soirs. Chaque soir. Ce soir, c'est Pascal Boniface, le patron de l'Eris. La star, j'ai envie de dire, éditorialiste, qu'on voit partout sur les télévisions, qui viendra nous livrer son regard sur la géopolitique Russie-Chine. Moscou, Pékin, l'alliance. Peut-on parler d'une alliance? L'invité du jour aujourd'hui, c'est Jade. Jade, vous savez, qui accuse son ex-conjoint de viol et de séquestration. Alors Jade, après de plusieurs tractations, vous allez vraiment... Je pense que son histoire va vous secouer. Elle va tous nous secouer. Je vous dis ça parce que il a fallu négocier, discuter... tracter avec elle pour qu'elle puisse accepter, et je la remercie d'entrer, d'avoir évidemment dit oui à cette interview dans Les Informés sur BFM. Tout à l'heure, le face-à-face, un ancien commandant de police qui me regardait avec des yeux genre « je vais te mitrailler ». C'est comme chez les cow-boys. Jean-Pierre Colombiès, c'est ça. Et un autre, j'allais dire un autre commissaire, mais non, il est syndicaliste, auteur. Jimmy Dalidou, deux regards différents, peut-être ou pas, qui viendront confronter leur point de vue sur les sujets suivants. Le pass vaccinal. Aïe, 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 à Paris, ça secoue. La protestation contre le pass vaccinal. Les convois de la liberté qui sont interdits à Paris. Tiens, tiens. Gérald Darmanin, il doit s'excuser. Auprès d'Apolline de Malherbe. Ça, c'est Elisabeth Moreno, sa collègue. Je pense que ça va faire du grabuge, tout ça. On va parler aussi des hijabeuses. Les femmes ont le droit de porter le voile au foot. Selon la ministre Moreno. Mais surtout, pourquoi la manifestation des hijabeuses a été interdite à Paris? Les hijabeuses qu'on retrouvera bientôt dans le studio. Je sais que ça vous plaît, ça, monsieur le commandant de police. Enfin, voilà ce qui vous attend, c'est les sujets qu'on viendra commenter tout à l'heure. Les informés, vous le savez, c'est plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Qu'est-ce qu'il a, le commandant, là, depuis tout à l'heure? Il se fout de ma gueule. C'est ce que vous avez à rire?
Non, je souris.
Les gars, tu vas finir en prison, Adil.
J'ai fini en tôle.
C'est surtout qu'il veut nous faire marcher sur des braises.
Je te mènerai des ordres.
Giovanni, il a le droit à la clochette, le commandant de police. Ex-commandant de police, vous avez raison. Tout de suite, l'invité du jour.
Les Informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Jade. Jade qui a accepté, évidemment, de venir se dévoiler ce soir dans Les Informés. Je tiens à dire à nos auditeurs que c'est une chose qui est pas simple. C'est pas simple d'ailleurs de dire, d'abord, pas simple dans le cerveau de dire oui, pas simple d'accepter et pas simple de se dévoiler comme ça, vous voyez, quand on a vécu des choses aussi terribles. Et on en parle avec Jade. Bonsoir, Jade.
Bonsoir.
Merci, je tiens à vous remercier. Un grand merci à vous, Jade, d'être avec nous ce soir et de nous raconter votre histoire. Je sais que c'est quelque chose pas simple pour vous, parce que forcément, lorsque vous racontez des choses, vous revivez, il y a des choses qui rejaillissent en vous. Jade, pour que nos auditeurs comprennent, il y a une phrase, une déclaration que je retiens, qui est de vous-même. Le système est tout aussi violent que ce que j'ai vécu. Obligé, bien sûr, de confier sa fille à son ex-conjoint qu'elle accuse de viol et de séquestration. Jade, racontez-nous l'histoire qui vous est arrivée. Que se passe-t-il avec la garde de votre fille?
Déjà, merci pour l'écoute et pour l'invitation.
Avec plaisir.
Effectivement, le parcours judiciaire est tout aussi violent que ce que j'ai pu... vivre, dans le sens où rien n'est facilité pour une victime. Quand j'ai déposé plainte, du moins quand j'ai trouvé la force et le courage de déposer cette plainte. Il est bon de rappeler, même si j'ai pas à me justifier, mais je tiens à le dire, quand...
De quoi parlait votre plainte ?
De viol.
De viol. Auprès
de
qui ?
J'ai été violée et séquestrée par mon ex-conjoint. Oui. Et le premier réflexe que j'ai eu, ça n'a pas été d'aller déposer une plainte, ça a été d'avoir une prise en charge médicale en psychotrauma pour m'aider à vivre tout ce que je supporte. Enfin,
oui. Les tout ce que vous avez vécu.
Ça a été très compliqué en fait. Jusqu'à ce jour, en fait, on m'a diagnostiqué un stress post-traumatique complexe chronique. Je vais passer ce passage parce que c'est pas facile à parler dessus.
Oui.
Je vais plus rester sur les dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'après j'ai déposé une plainte. Et je suis rentrée dans une BLPF, donc c'est une brigade spécialisée protection des familles.
L'ex-commandant de police qui est avec nous sur le plateau dira un petit mot justement concernant votre histoire, Jean-Pierre Colombiès. Bonjour Jade.
Bonsoir Jade d'abord.
Et donc j'ai passé 3 heures d'audition où j'ai reçu des questions. Je ne les répéterai pas là parce qu'elles sont vraiment... C'est des questions qui ont été violentes.
Des questions de qui ? De la police ?
Oui, dans le cadre de l'audition. Et qui étaient culpabilisantes, humiliantes et traumatisantes.
Quel type de phrases, quel type de questions vous a-t-on posé, Jade ?
Sans vouloir heurter l'oreille des auditeurs, on m'a demandé « Étiez-vous sèche ? Pourquoi vouliez-vous pas lui donner de l'affection ?» Étiez-vous habillé ? Aviez-vous mal ? Pourquoi ne pas lui avoir dit que vous aviez mal ? Enfin voilà, autant de questions qui vous humilient et culpabilisent, et où vous ressortez de cette audition, vous avez l'impression que c'est de votre faute si vous avez été violé.
Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, Jade. Vous accusez la justice de graves manquements et la police également. Donc, j'ai bien compris, une enquête de l'IGPN est ouverte.
A été saisie, oui. Oui, tout à fait. L'IGPN a été saisie parce que... parce qu'en fait, quand j'ai déposé cette plainte, 3 ans après, peu de temps après mon dépôt de plainte, on m'a diagnostiqué un cancer très agressif. J'ai dû rentrer dans un protocole de soins très lourd. Et au bout de 3 ans, en fait, j'avais toujours pas de nouvelles de ma plainte. Du coup, je suis partie me rendre au commissariat où j'avais déposé la plainte pour savoir ce qu'il en était. Et là, je suis accueillie par 2 agents qui me demandent mon nom et celui du mis en cause pour regarder dans le registre ce qu'il était advenu. Et en fait, ils ne trouvaient pas la plainte. Ils m'ont demandé de m'assurer si j'avais bien déposé une plainte. Et je leur ai expliqué que on voit la preuve, j'ai la copie avec moi. Du coup, ils prennent le numéro du procès-verbal et font des recherches. Et là, je vois qu'il y a un gros malaise. Et ils finissent par me révéler que la plainte, le dossier est toujours ouvert, que rien n'a été fait. Pas d'interpellation, pas d'audition, pas de transmission au parquet, enfin ils m'ont dit du coup de revenir et de voir avec l'officier qui avait pris la plainte. Et là quand je reviens à plusieurs reprises afin de rencontrer cet officier, il m'explique que l'argument qu'il me donne en tout cas, c'est la plainte, elle a dû se perdre au parquet lors du déménagement dans le nouveau tribunal de Paris. Voilà, c'est une excuse qu'on me donne. Et du coup, il se dessaisit de la procédure qui est toujours ouverte et il me renvoie vers un de ses collègues pour déposer un complément de plainte afin de relancer une procédure. Et là, je reviens donc encore plus tard. Je dépose ce complément de plainte avec son collègue. Je tiens à préciser que la première fois, on ne m'a pas remis de réquisition UMJ, ce qui aurait dû être le cas. Et donc, du coup, dans le cadre du complément de plainte, je demande une réquisition UMJ qu'on me remet et où le rendez-vous m'est donné 5 mois plus tard. Alors que normalement, c'est des rendez-vous qui doivent être donnés beaucoup plus tôt. Et le complément, donc voilà, il a été fait. Il faut savoir que le complément, il était vide de sens. Il reprenait pas la plainte, puisqu'il y avait déjà une plainte. C'était juste pour relancer une procédure. Mmh. 9 mois plus tard, je suis d'abord, 5 mois après le complément, je passe aux UMJ, qui me fixe plus de 45 jours d'ITT. Hein. Ce qui est énorme, visiblement, et c'était déjà une première reconnaissance réelle de mon statut de victime. Et 9 mois après le complément, c'est une main courante que j'ai déposée au commissariat parce que mon ex-conjoint a retrouvé pour la énième fois mon adresse, parce qu'il est bon de dire que depuis 10 ans, je vis cachée, parce qu'il n'a de cesse de me traquer et de me rechercher. Et donc c'est cette main courante qui aura déclenché la procédure, enfin qui aura en tout cas qui aura été l'élément déclencheur à l'enquêteur pour se saisir enfin du dossier, parce que depuis le complément rien n'avait été encore fait.
Alors le combat, votre combat, Jade, parce que évidemment le temps file à une vitesse incroyable, et j'aimerais qu'on avance. Votre combat, Jade, c'est aussi un autre combat, c'est celui où évidemment la justice a tranché, obligé de confier votre fille à votre ex-conjoint que vous accusez de viol, j'ai bien compris. Donc ça, c'est évidemment, c'est un autre combat que vous avez du mal à encaisser aujourd'hui, parce que si je reprends le dossier, votre fille est âgée de 10 ans aujourd'hui. Vous dites qu'elle est née d'un viol, c'est ça ?
C'est bien ça.
Et que elle n'aurait jamais rencontré son géniteur.
Tout à fait.
Parlez-nous de ce combat aujourd'hui, qui est un second combat après le premier, évidemment, de ces viols que vous avez subis.
Non, en fait, l'un va pas sans l'autre, parce que dès l'instant où il y a eu des manquements dans le dépôt de la plainte, en fait, il faut comprendre qu'en France, les juridictions, elles sont cloisonnées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, de passerelle entre le civil et le pénal. Et au civil, on a beau apporter tous les éléments de preuve, tous les éléments qui justifient le harcèlement, les violences, les plaintes, les rapports médico-judiciaires, les rapports du centre du psychotrauma, tout ce qu'il faut, au civil, ils ne le regardent pas. C'est une doctrine où il y a une sacralisation du lien génétique. Et ils ont besoin d'avoir, eux, des informations judiciaires ou des condamnations si toutefois ils devaient reconnaître une violence au sein d'une famille. Et les manquements qu'il y a eu du côté pénal dans le cadre de l'enquête font que, entre-temps, en parallèle, des décisions côté JAF sont arrivées. Et on est arrivé à une décision aujourd'hui où on décide de retirer la garde de ma fille définitivement, de la remettre à cet homme qui est un étranger pour elle, alors qu'elle est âgée de 10 ans. Donc on fait le choix de l'arracher à son monde où elle va très bien, où d'ailleurs il a été reconnu par un juge pour enfants qu'elle n'était pas en danger, qu'elle ne manquait de rien. Et donc il y a eu déjà une enquête par un juge pour enfants du fait qu'elle soit avec moi pour connaître ses conditions de vie. Et pour autant, un juge aux affaires familiales, pour me punir, parce que depuis toutes ces années, moi je m'oppose à une coparentalité que la justice m'impose.
Avec cette garde partagée, oui.
Voilà, on m'impose une coparentalité à laquelle je m'oppose à juste titre. Et en fait, le civil ne veut pas entendre. Et là, aujourd'hui, parce que je me suis toujours opposée à cette coparentalité, on me condamne à une amende de 10 000 euros.
10 000 euros, oui.
Et à me retirer la garde définitivement de ma fille. Alors voilà, il faut quand même savoir que pour des plaintes de non-représentation d'enfants, jusqu'à maintenant, le pénal ne m'a jamais condamnée.
Bon, ça a été restez avec moi, Jade. On se retrouve dans une poignée de minutes. Je vais juste lancer la pub. Et on se retrouve tout de suite après, évidemment, pour y compris retrouver Assia, qui a décidé de monter un comité de soutien. On l'écoutera aussi attentivement, mais on écoutera aussi l'ex-commandant de police qui connaît très bien ces dossiers, puisque c'était son univers, Jean-Pierre Colombiès, qui est avec nous sur le plateau. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant.
Salut à tous, c'est Bilal Nedman. Retrouvez-nous dans Tam Sport du lundi au vendredi, 20h-21h, pour toute l'actualité sportive.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h22 précisément, si vous venez de nous rejoindre, les informés, c'est avec cette interview donc exceptionnelle, inédite, avec Jade qui accuse son ex-conjoint de viol et de séquestration. Aujourd'hui, on parle de sa fille âgée de 10 ans, qui est donc née de l'un de ses viols et qui, au départ, n'avait jamais rencontré son géniteur. Après avoir refusé de confier sa petite fille donc à cet homme depuis maintenant 2015, la justice a fini par trancher. Et donc, elle a perdu la garde de son enfant et on va tâcher de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que vous comptez faire, ma chère Jade, et quelles sont évidemment les différentes... Et où en êtes-vous aujourd'hui avec l'IGPN ? Allô ? Allô, vous êtes... Oui, allô ?
Bonjour, alors je vois que Jade n'est plus connectée, je suis Asia Benziane.
C'est Asia Benziane. Asia Benziane, vous êtes celle qui est...
Je prends le relais de Jade, tant qu'elle se reconnaît, notamment.
Oui. Alors vous êtes la fondatrice du comité pour Jade.
Exactement.
Alors comment est né ce comité ? Et je sais que vous avez, beaucoup de monde derrière vous, hein, derrière ce comité.
Oui, tout à fait. On a des représentants d'associations, comme Femmes Solidaires, comme la collective de Mères Isolées, de Montreuil, notamment des élus, députés, adjoints au maire, élus régionaux, etc. Ce comité a été créé suite au lancement de la bouteille à la mare de Jade sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que par ailleurs, moi, je suis adjointe au maire aux droits des femmes dans une ville dans le Val-de-Marne.
Oui.
Je connaissais la situation de Jade puisque je l'accompagne depuis de nombreuses années.
Oui, et une pétition a été signée, vous avez lancé une pétition qui a été signée par plus de 600 personnes, hein.
Oui, alors là, on est à 777 personnes qui ont signé. On espère atteindre les 1000 personnes et les 1000 signatures.
La pétition, on la trouve où précisément ?
Vous la retrouvez sur le Facebook, Comité de soutien à Jade.
D'accord, bon.
Elle est tout à fait disponible.
Quel est votre rôle, vous, de ce comité ? C'est d'accompagner Jade, Asia Benziane ?
Exactement, j'accompagne Jade dans toutes ses démarches. Il faut savoir qu'on a eu notamment une ouverture d'une enquête de l'IGPN. On espère des retours positifs pour le dossier notamment. Nous allons envoyer des courriers au procureur général de la République, notamment pour demander une annulation du classement sans suite du dépôt de viol que Jade a fait en 2016. Parce que les policiers ont malheureusement été incompétents sur cette affaire-là et donc n'ont pas transmis l'ensemble des éléments et donc le parquet s'est appuyé sur des éléments qui étaient manquants et donc classé. Nous, on trouve ce classement tout à fait abominable. Pourquoi ? Parce qu'il a une...
D'ailleurs, vous en appelez d'ailleurs un MeToo de la justice qui poursuit ce dossier, hein, voilà.
Exactement. J'en appelle à un MeToo de la justice, notamment. J'en appelle aussi à une stricte compétence des policiers qui reçoivent des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et c'est quelque chose qu'on porte à des hauts niveaux. Moi, j'étais membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, donc j'accompagnais Jade, c'est normal. J'accompagne énormément de femmes tous les jours qui sont victimes de violences. Et il faut savoir que Jade est dans une situation des pires que j'ai eu à constater depuis toutes ces années où je suis élue.
Bon. Est-ce qu'on a retrouvé Jade, ma chère Asia Benziane ?
Je ne la retrouve pas.
Bon, c'est dommage.
Désolé.
C'est dommage. Écoutez, en tous les cas, tenez-nous au courant du dossier. On sait qu'aujourd'hui, il est entre les mains de l'IGPN. Hein.
Exactement, merci beaucoup.
L'IGPN qui a été saisi, et l'IGPN hier. Justement hier, et qui va trancher.
Exactement.
Trancher et nous dire donc précisément, puisqu'on sait que Jade a été condamnée à verser une amende, c'est elle-même qui nous l'a dit tout à l'heure, hein,
de
10 000 euros à son ex-conjoint. La garde de la fille donc est désormais entre les mains de son père, hein, de cet homme.
Exactement. Alors l'enfant n'est pas encore confié. En tout cas, on s'y opposera fortement. Il est inadmissible de concevoir que des juges aux affaires familiales confient une enfant de 10 ans qui n'a jamais vu son géniteur. On la confie à un homme qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie et donc nous ne pensons pas à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Donc le combat de Jade, c'est de faire annuler en urgence la garde confiée à son ex-conjoint.
Exactement, et de réouvrir l'enquête pour viol qui a été perdue en 2016.
J'ai vu qu'une pétition circulait sur change.org pour interpeller le chef de l'État.
Exactement, c'est cette pétition-là qu'on vous invite toutes et tous, bien sûr, à signer en soutien à Jade et à sa fille.
Merci Assia Benziane. Remercier également Jade. Grand merci à elle pour, évidemment, d'avoir accepté l'invitation ici même dans
merci
Les Informés.
Beaucoup.
À très bientôt.
À très bientôt.
Jean-Pierre Colombez, vous êtes ex-commandant de police. Vous connaissez ces dossiers-là. Vous avez dirigé une unité, justement, dans ce domaine. Comment vous réagissez, évidemment, face à ce dossier ?
Oui, tout à fait. Oui, j'ai commandé une unité comme ça à Marseille. On était spécialisé dans les agressions sexuelles et les viols, notamment. Bon, je ne connais pas, bien évidemment, son dossier ni sa plainte. Donc, c'est difficile d'avoir un regard, une appréciation... sur la procédure. Qu'elle se soit perdue en soi, déjà, ça, de toute façon, c'est parfaitement anormal. On va pas tourner autour du pot, hein. Ce que je regrette, moi, surtout, c'est qu'on ait plus ou moins fait disparaître ces unités spécialisées qui existaient un petit peu partout, d'ailleurs, avant que la police de proximité ne balaye ça d'un revers de main. Pourquoi c'était important ? Parce que ces plaintes, justement, ce type de plaintes ne traînaient pas dans les commissariats. Et elles étaient immédiatement confiées à des unités spécialisées et donc des enquêteurs.
Elles traitaient aussitôt.
Absolument. Des enquêteurs que nous étions. Je n'étais pas tout seul. Hein. On était une douzaine de fonctionnaires spécialisés là-dedans, donc habitués à recevoir les femmes victimes de violences ou de viols ou d'agressions sexuelles. Et on faisait en sorte de les recevoir dans les meilleures conditions en leur posant, et là je mets un petit bémol quand même à ce qui a été dit, en leur posant effectivement des questions bien spécifiques, non pas pour les humilier, mais pour obtenir le maximum de détails, pour justement faire la part des choses et le cas échéant, justement, impliquer au mieux, dans les meilleures conditions, les auteurs des agressions. Donc, après, qui a reçu cette jeune femme, Jade, ça reste à voir. Peut-être qu'il y a eu des maladresses, ça n'a peut-être pas été fait dans les conditions les plus optimums, ça j'en sais rien, je ne vais pas dire le contraire. Je ne peux ni prendre la défense, ni accuser qui que ce soit, puisque je ne connais pas le dossier. Donc, ce serait très présomptueux d'avoir un avis.
Jimmy Dalido. Sauf votre micro, Jimmy, hein, il n'est pas allumé. Allez-y.
C'est bon, on m'entend ?
Oui.
Non, juste pour dire, bon, d'abord, du courage à cette dame, hein, si, c'est compliqué, mais je ne reviendrai pas sur le domaine que Jean-Pierre, dont tu as parlé, je resterai neutre à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui me pose question, c'est la question de la bureaucratie, en fait. Parce qu'apparemment, elle disait que le dossier avait été perdu. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup. On constate qu'il y a beaucoup de dossiers perdus dans la police en France. Parce que je sais pas. Alors, c'est peut-être un parallèle un petit peu grossier. Vous m'excuserez, mais dans les mouvements sociaux, par exemple, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a des plaintes qui sont déposées, on a souvent affaire à des dossiers qui sont perdus. Mmh. Moi, ça me pose un véritable problème parce que comment on peut. Là, on a une dame qui apparemment a subi une agression horrible. Alors, dans un commissariat. Alors, sur les questions, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que, ouais, effectivement, il y a des questions un peu intrusives. C'est un peu compliqué, mais il faut que ça se fasse. Mais je veux dire, quand tu as une femme qui est en galère, tu ne perds pas son dossier. Vous voyez, il y a un véritable problème dans la police dans ce pays. Enfin, je pense qu'il y a un véritable problème bureaucratique.
Ne généralisons pas,
on va éviter de généraliser. Ça reste heureusement exceptionnel. C'est pas normal, effectivement. Et on va pas essayer de trouver des échappatoires. Hein. C'est une agression, enfin, c'est une accusation trop grave pour qu'elle se perde, pour être clair.
Exactement.
On parle pas de vol de paillasson ou de poubelle, non. Là, on parle d'une agression physique très lourde. Donc, quelle que soit la nature du dossier, je dis bien quelle que soit la nature du dossier, je ne formulerai aucun jugement, ni je ne prendrai aucune. Je n'aurai aucun parti pris, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, parce que je ne le connais pas. Mais maintenant, perdre le dossier n'est pas une chose normale, tout simplement.
Oui, c'est vrai.
Après, sur la lourdeur, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur la lourdeur aussi de la procédure, qui est kafkaïenne dans ce pays, et qu'on a tout fait pour qu'elle soit kafkaïenne.
Alors, messieurs, nous allons revenir sur les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, les 19h30, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Chaque jeudi, nous recevons donc l'éminent Pascal Boniface, le patron de l'Eris. Bonsoir, mon cher Pascal.
Bonsoir Adil.
Comment ça va bien ?
Très bien, impeccable.
Nous vous écoutons désormais pour votre billet carte blanche concernant la géopolitique Moscou-Pékin, l'Alliance.
Oui, alors quelle était la grande photo des Jeux Olympiques ? Et c'était la photo de Xi Jinping et de Poutine ensemble, qui a marqué les esprits. D'autant plus curieux que la Russie n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques, parce qu'elle était exclue par l'Agence mondiale contre le dopage pour un dopage d'État avec les Jeux de Sotchi. Donc il y a des sportifs individuels russes qui peuvent venir, mais pas la Russie en tant que telle. Et donc, il y a bien un affichage géopolitique à montrer Moscou et Pékin ensemble. Il y a un goût un peu de reconstitution d'une alliance de l'ancien temps, puisque l'Union soviétique, la Chine, comme il dit, s'étaient alliés. Ils avaient rompu en 63, pas pour des motifs idéologiques, mais par nationalisme, parce que la Chine ne pouvait pas accepter d'être le second de la Russie. Elle voulait être indépendante de l'Union soviétique. Elle voulait être indépendante. Et puis, bon, rupture, il y a même une petite guerre entre eux en 69, et puis après, ils ont recommencé à se parler, à avoir des liens, et maintenant, en fait, ce qui les unit, c'est ce qui leur a fait rompre, le nationalisme. Parce que les deux estiment qu'ils ont un ennemi commun, l'Occident, notamment les États-Unis, et qu'ils doivent s'épauler. Et donc, on a de plus en plus cet axe que l'on dit de pays autoritaire. Du côté américain, on dit, bah non, nous, on va faire un axe de démocratie. Mais là, les rapports de force sont inversés. Parce que la Russie est beaucoup plus faible que la Chine. Et Poutine ne veut pas être dans un tête-à-tête bilatéral trop étouffant.
Exact.
Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est intelligent, si l'on dit que la Chine est le défi numéro un stratégique,
ouais,
de pousser la Russie un peu plus chaque jour dans les bras de la Chine, en empilant les sanctions, etc. Est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas les séparer? Ce qu'avaient fait à l'époque Nixon et Kissinger, qui avaient dit on va s'allier au pays le plus faible, la Chine, pour contrer le pays le plus fort, l'Union soviétique. Mmh. Et là, on fait l'inverse. On pousse un peu plus, chaque jour, la Russie dans les bras de la Chine. Et là, ils ont affiché leur unité en disant qu'ils ne voulaient pas que l'Occident, qu'ils estiment dépassé, leur dicte leur conduite.
Excellent, excellent. J'aime beaucoup ce billet d'humeur. Il m'a beaucoup plu aujourd'hui, ce billet d'humeur. Bravo pour ce billet d'humeur, mon cher Pascal Boniface.
Merci Adil, bonne soirée, bonne fin d'émission.
Bonne fin d'émission, merci à vous et à la semaine prochaine sans faute. 19h33, nous allons marquer la courte pause. Non, on a le temps de discuter. Allez, on va lancer ce premier sujet. Merci Pascal Boniface. Protestation contre le pass vaccinal, les convois de la liberté qui sont interdits à Paris. Tiens, tiens, parti dans plusieurs villes de France pour rouler sur Paris ce week-end, vous savez, et même d'ailleurs pour protester.
Tiens donc
contre...
interdit.
Ah, oui, bah et alors, on va en parler justement, monsieur le syndicaliste. Interdit,
tiens
voilà,
donc.
A annoncé la préfecture de police ce matin. Alors, qui veut commencer?
Vas-y, commence. Je me lance. Non, mais moi, c'était prévu d'avance hein, que ce soit interdit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est interdit maintenant. Hein. À partir du moment où vous faites une manifestation, quelles que soient les revendications de la manifestation, tout est interdit. C'est vrai. C'est tout
vous
interdit.
Avez droit à la clochette.
Tout interdit. Tout est interdit. Et le préfet allemand, c'est un pro de l'interdiction hein, depuis le début. Déjà à l'époque des Gilets jaunes, il interdisait tout. Bientôt, ils vont nous interdire de discuter, de débattre, et ils vont nous interdire de livres. Je sais pas. Peut-être que la prochaine étape, c'est peut-être les autodafés. Ils vont peut-être brûler des livres. J'en sais rien, mais. C'est un véritable problème parce que j'ai souvent dit, je parle souvent de dictature du capital. En fait, c'est ça qui se passe en France. En France, nous assistons, sous couvert de la crise sanitaire, de la mise en place d'une dictature du capital dans laquelle la population, la classe ouvrière, les couches populaires, la classe moyenne, la
donc la décision du préfet ne vous surprend pas.
S'exprimer.
Ne vous surprend pas.
Non, ça ne me surprend pas. C'est logique, cohérent.
Le convoi de la liberté prévoyait de bloquer la capitale.
Ils ont un intérêt de classe, en
fait. De bloquer la capitale.
Ils y arriveront peut-être.
Jean-Pierre Colombier.
Ils y arriveront peut-être. Et l'interdire ne servira pas à grand-chose. Enfin, il y a quand même aussi des. Enfin, je vais dans la continuité de ce qui vient de dire. Ça fait quand même 4 ans que ça dure. 4 ans que ce pays connaît des mouvements sociaux d'une crispation rarement égalée ces dernières années. Interdire ce mouvement. D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment ils vont concrètement l'interdire, parce que là, au lieu d'avoir des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, on va avoir des voitures qui vont arriver de toutes parts et qui vont probablement à minima.
Ah ouais, c'est ça, bloquer tous les axes.
Et donc, de fait, bloquer l'Île-de-France. Donc, ça va être un peu la quadrature du cercle. Donc, je serais curieux de savoir comment le préfet, qui effectivement a une certaine tendance à tout interdire et à régler les problèmes avec sa manière à lui, en revoyant d'ailleurs les process de gestion des maintiens de l'ordre qui lui appartient vraiment qu'à lui. Donc, je pense que leur gros problème, c'est de se dire à un moment donné sur quoi ça va déboucher. Parce que là, il y a effectivement ceux qu'on a qualifiés de gilets jaunes qui se greffent au mouvement. Il y a un véritable, je dirais, sentiment de ras-le-bol dans ce pays, de vivre effectivement totalement sous boisseau, d'être masqué, confiné, de voir des interdits un peu de toutes parts, avec le pass vaccinal, le pass... Bref, il y a un moment donné où la nature humaine exprime sa colère d'une manière ou d'une autre. Donc comme la répression des Gilets jaunes a été particulièrement violente, là il y a une autre forme d'action qui, à mon avis, va être beaucoup plus compliquée à gérer, parce que là on n'aura pas, je dirais, des manifestants bien structurés en face de soi. Donc je sais pas
très là où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Pierre, c'est d'ailleurs une erreur que beaucoup font en ce moment, c'est de poser des bases de différenciation entre les Gilets jaunes et le combat de la liberté. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux, en fait.
Non, je n'ai pas dit que c'était différent, j'ai dit
que que tu disais que le Gilet jaune se greffait sur le mouvement et que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une idée, enfin, une série d'idées qui ont été mis en exergue dans différents mouvements, notamment les Gilets jaunes, etc. En fait, il n'y a pas de différence entre les Gilets jaunes et le convoi de la liberté. C'est la même idée de liberté, c'est la même idée de s'émanciper, l'idée de vivre mieux qui s'exprime sous différentes formes. Donc, ça prend des formes différentes. Moi, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, sur certains passages télévisés. J'avais dit quoi? J'avais dit, vous allez voir que les Gilets jaunes, l'idée des Gilets jaunes va prendre une autre forme. Et après, le convoi de la liberté, ça prendra une autre forme. Et c'est là qu'on voit que la dictature qui s'est mise en place depuis la crise sanitaire va se casser les dents, parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut pas bloquer des idées. Elle peut pas empêcher le développement des idées, surtout lorsque
ces
idées
sont exploitées. On continue d'en parler, on va juste marquer la dernière pause pub et on se retrouve tout de suite. Ah, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le débat continue, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Colombiès, auteur, notamment une pièce de théâtre. Tiens, on va la rappeler, tiens, ça nous fera du bien.
Oui.
Ça se joue quand?
Je crois qu'elle est de plus en plus d'actualité.
Ah oui, elle est de plus en plus d'actualité. Ça se joue quand?
Ça se joue tous les samedis soirs à 21h15 au théâtre du Darius Milhaud dans le 19e Port de Pantin. Et j'y parle d'un pauvre type qui a été embarqué malgré lui dans ce qui sera la révolution communarde.
Allez le voir, Jean-Pierre Colombier, s'il a besoin d'être soutenu.
Non, un policier avec un drapeau rouge.
Allez-y.
C'est joli, je trouve.
Allez-y. Franchement, je les amis auditeurs, faut y aller. Jimmy Dalidou, messieurs. Interdiction de manifester à tout va, comme le rappelait Jimmy Dalidou. Jean-Pierre Colombiès, on est dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère?
On joue un jeu.
Je parlerai des hijabeuses tout à l'heure. Les hijabeuses, c'est pareil. Oui. Interdiction aussi de manifester.
C'est un autre registre. Mais je pense qu'il joue un jeu dangereux. L'allemand, c'est rien. C'est Macron qui joue un jeu dangereux. C'est pas l'allemand. L'allemand a été nommé par Castaner, qui lui-même a reçu l'ordre d'Emmanuel Macron. Enfin, faut arrêter de tirer sur les paravents ou tirer sur les ambulances. Si l'allemand fait ça, c'est qu'il en a reçu l'instruction. C'est tout simplement que maintenant les mouvements sociaux d'ampleur vont faire peur, très peur, parce que tout peut basculer à un moment donné. Cela dit, ça n'empêchera pas qu'il y a en ce moment une vague de fond, alors qui ne touche pas les soutiens indéfectibles au président sortant, qui est quand même candidat, qu'on le veuille ou pas, hein, parce que tous les gens qui distribuent des tracts dans la rue le font pour lui, hein, donc il est candidat pour moi. Bref, tout ça pour dire que d'interdire tout dans n'importe quelle condition, ça risque à un moment donné de basculer.
Mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez justement à cette manifestation qui a été interdite justement à Paris sur le voile dans le sport, la manifestation des hijabeuses qui a été interdite, et de l'autre côté on a la ministre, Madame Elisabeth Moreno, qui dit mais les femmes ont le droit de porter le voile au foot.
Bon, on est encore dans le en même temps, quoi. Je veux dire, c'est classique. On a des membres du gouvernement qui jouent le chaud et le froid, et on interdit, alors je ne sais pas si des hijabeuses sont un danger pour la République. On peut avoir un débat là-dessus, hein, sur savoir le pourquoi du comment, est-ce qu'il faut ou pas porter un hijab quand on fait du sport. Enfin, moi, j'ai mon avis.
On pourrait même dire que c'est plutôt le gouvernement qui serait dangereux pour la République, non?
En ce moment,
c'est... Pour moi, c'est...
J'écouterai votre avis, laissez-le finir. S'il vous plaît. Jean-Pierre Colombiès, allez-y, finissez et je vous donne votre point de vue.
Je pense qu'il y a un réel danger, oui, sur l'expression dans ce pays, l'expression libre. Tu parlais des hijabs.
Parce qu'il y a véritablement une expression libre dans ce pays.
Je suis pas certain que les djabeuses soient réellement dangereuses, sincèrement. Je pense qu'il y a un débat, on peut avoir un débat, on peut pas être d'accord avec elle. Bon, moi, j'aurais un avis assez partagé. Dès qu'on touche à la foi, à la religion, c'est toujours interminé. Hein, tu nous amènes quand même là sur des braises un peu ardentes. Je pense qu'on peut vivre sa foi, sincèrement, pleinement, sans nécessairement être démonstratif au-delà du normal. Je suis pas certain que ça leur apporte grand-chose de jouer au foot avec un hijab.
Oui. Jimmy Dalidou.
Ouais, non, mais franchement, ça nous saoule. Hein. C'est provocations pompeuses qui consistent à dire à porte le voile machin. Non mais attendez, on a quand même un axe central de il existe un axe central de cette nation qui est la laïcité. Vous voyez, laïcité. Et je pense que laïcité elle fonctionne dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, oui, d'accord. C'est-à-dire que laïcité, elle est aussi là pour mettre une barrière. C'est-à-dire une barrière. Chacun est libre. On va pas. C'est toujours bon de le répéter. De chacun est libre de croire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il est libre. C'est ça aussi laïcité, d'adopter une religion comme aussi de la rejeter. C'est pas aussi. C'est aussi l'adopter, la rejeter. Ça fait partie de laïcité. C'est une barrière qui empêche de développer ce qu'on appelle le prosélytisme.
Mais d'interdire cette manifestation des diables.
Pour moi, c'est une entrave à cette base qui est la laïcité. Parce qu'à partir du moment où tu pointes du doigt une femme et tu lui dis, tu portes le voile et je t'interdis de faire telle ou telle chose, alors tu pointes du doigt le fait que son voile matérialise le fait qu'elle pratique l'islam.
Alors qu'on ne sait pas.
Et donc, c'est anti-laïcité, en fait, cette position. Ouais, tout simplement.
Non, je suis complètement d'accord.
Ouais. Messieurs, nous allons poursuivre, parce qu'il faut qu'on avance. Là, il est 19h47 bientôt. Et je voudrais qu'on parle, vous savez, de Gérard Darmanin. Selon toujours, évidemment, Elisabeth Moreno, il doit s'excuser auprès d'Apolline de Malherbe, la journaliste de BFM TV, Jean-Pierre Colombiès. On ne laisse pas passer.
On peut que le déplorer, déjà, de toute façon. On évoquait l'allemand. On aurait pu évoquer Darmanin. C'est la même chose. Hein, je veux dire, il ne faut pas croire que les autorités administratives, quelles qu'elles soient dans ce pays, sont autonomes. Elles ne le sont pas. Aucun préfet dans ce pays n'a d'action autonome qui lui est propre. Darmanin s'est lâché totalement face à Apolline de Malherbe. Je ne suis pas certain qu'il en aurait fait autant devant Jean-Jacques Bourdin. Je ne suis pas sûr. Pas sûr du tout. Je trouve que c'était non seulement maladroit, mais c'était pas très courageux de sa part, surtout parce qu'il sait très bien que ça pourra pas aller au-delà d'un certain niveau, cette prise de parole qui est non seulement maladroite, mais qui est malhonnête.
Calmez-vous, lui a dit.
Ça va bien se passer, mais qu'est-ce que
c'est bizarre, ça veut dire.
Bah, en fait, je pense que c'est en cohérence. Je veux dire, c'est des gens qui sont. Ils sont, c'est leur état d'esprit, en fait. Ils sont dans un état d'esprit de domination, de soumission. Ils veulent. C'est un peu comme quand interdit une manifestation, en fait. Tu connais ma ligne. Hein. Pour moi, ma ligne, elle est claire. Le système est conditionné par la domination d'une classe par une autre. Ce gouvernement représente une classe sociale, la classe des plus riches, ce qu'on appelle la bourgeoisie monopoliste. Et ce qu'ils aiment, c'est la soumission, l'interdiction, et qu'on écoute ce que leur dit et donner des ordres. Donc, quand ils sont face à une journaliste qui tient tête, qui est plus une femme, ils font. Pour moi, tout est cohérent, en fait. Ils sont dans leur.
Jean-Pierre Colombiès.
On voit comment s'est comporté plusieurs fois Olivier Véran dans le cercle de l'Assemblée nationale. C'était encore plus violent par certains instants, mais ce n'est pas le seul. Il me semblerait qu'il y ait une forme de trait caractéristique chez certains de La République En Marche à être assez virulent. Cela dit, sur les chiffres, une parenthèse quand même.
Oui, alors,
elle met en avant, ça c'est très important, peut-être encore plus important que la forme. Elle met en avant un déficit quand même de résultats conséquents. Et c'est un fait incontournable. Au niveau sécuritaire, ce gouvernement s'est complètement planté, tout simplement parce qu'ils s'y sont pas intéressés. Ils ont nommé des ministres de hasard. Je suis désolé, mais le premier d'entre eux voulait partir dans la nuit, souvenez-vous. Il voulait s'échapper pour ne pas prendre ses responsabilités. Là-dessus, on a nommé Castaner, qui a été, pour moi, et pas que pour moi du reste, un des pires ministres de l'Intérieur qu'on ait eu. Et là, aujourd'hui, on nous met Darmanin, qui applique les anciennes recettes de son maître à penser, Nicolas Sarkozy, ouais. Et donc qui consiste à manipuler un peu les chiffres, un peu comme on veut, et à essayer de leur faire dire n'importe quoi, notamment sur les atteintes aux biens. Bien sûr qu'il y a moins de cambriolages sur les deux années glissantes. Et pour cause, on a été confinés la moitié du temps. Et qui plus est, le télétravail a fait que les gens ont été, d'une certaine manière, beaucoup plus présents chez eux. Donc c'est normal qu'il y ait moins d'atteintes aux biens. Par contre, sur le reste, c'est un échec total. Quand je vois Emmanuel Macron aller expliquer à Vladimir Poutine qu'il ne faut pas envahir l'Ukraine, autrement il va peut-être envoyer des soldats en Roumanie, alors même qu'on n'est pas foutu de casser les checkpoints dans certaines cités marseillaises, ou que tu as 30 types à Brest qui, dans une cité ouvrière, font régner la terreur, ça me fait doucement sourire. Enfin, ça me fait sourire de manière un peu cynique, parce qu'on n'arrive pas, chez nous, en France, à avoir une paix sociale qui est très fragile, de plus en plus fragilisée, et on le voit avec ce qui va se passer.
Tu n'auras pas de paix sociale. En fait, la paix sociale n'a jamais existé. En fait, la paix sociale, c'est un leurre. En fait, il n'y a pas de paix sociale, ça n'existe pas. Dans un système capitaliste, il y a toujours une phase d'équilibre des classes. Alors, les boomers, les baby boomers, etc., etc. C'est-à-dire que le capital fait tellement de fric qu'il donne des miettes plus grosses au peuple travailleur pour justement acheter la paix sociale. Mais l'exploitation de classe reste l'exploitation de classe. Et à un moment, les processus, on peut revenir sur la roche économique d'une manière scientifique. C'est démontré. Que, en fait, à un moment, le processus d'accumulation, de concentration, concrètement, quand tu fais plus de fric, faire plus de fric, c'est conditionné par la paupérisation. Il faut comprendre une chose, c'est que faire du fric, c'est conditionné par la paupérisation. Donc à un moment, la paix sociale n'a jamais existé. En fait,
elle peut exister dès lors qu'on a des gouvernances qui en tiennent compte, qui tiennent compte de cet équilibre très très fragile.
C'est une position de classe qui tienne le gouvernement.
Vous êtes d'accord, c'est une position de classe.
C'est une position de classe.
Et on voit
le préfet allemand, c'est le bras.
On connaît Jimmy Delidou, il est très dans son évidemment.
Je tiens ma ligne.
C'est ça, vous êtes
le gouvernement, il représente pas le peuple, il représente les classes.
Quand j'ai travaillé sur la rédaction du texte et de la pièce, je me suis quand même pas mal documenté sur les mouvements révolutionnaires de ce pays. Et ils ont eu lieu quand? Ils ont eu lieu quand justement il y a eu un trop grand déséquilibre, lorsque l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est devenu insupportable. Et quand tu rajoutes à ça, des phrases méprisantes, insultantes, fracturantes, au bout d'un moment, on tend la corde et elle pète, elle casse. Et
c'est là, je suis d'accord. Exactement.
Il faut savoir se taire et ne pas insulter l'autre, surtout quand on est très, très privilégié.
Ouais. Mais ce gouvernement, il nous insulte depuis le début de son mandat, en fait. Le président et tous ces petits pantins qui est autour, là, banquiers fanatiques et ces pantins.
Vous avez décidé de charger le gouvernement?
Je suis comme la plupart des Français.
J'ai l'impression, à chaque fois que vous venez ici, vous venez avec en tête, en se disant, je vais charger le gouvernement. C'est le mec qui n'a qu'une idée en tête.
Non, pas du tout ça. Non, c'est tout simplement une. Qu'est-ce qu'il dit, les gens? Les gens, ils te disent, ils ne peuvent plus voir ce gouvernement. Dès qu'ils les voient à la télé, ils ont envie de cracher sur la télé. C'est ça la réalité. Je n'invente rien.
C'est qui?
La population.
Non, pas tout le monde.
Mais non.
Mais si, la majorité.
Mais arrêtez de dire la majorité. Vous mettez encore une fois.
Il y a 25%.
Ne soyez pas réducteur. Ne faites pas des raccourcis. Mon cher Jimmy Delidou.
Et un gouvernement.
Pas de raccourcis.
Depuis le début.
Pas de raccourcis, s'il vous plaît.
Et d'ailleurs, un petit rappel, tous ces hommes politiques.
Banquier fanatique numéro 1 et banquier fanatique numéro 2.
Pas de raccourcis, mon cher Jimmy Delidou.
C'est assez amusant. Tous ces gens qui se revendiquent de Gaulle. Alors, Macron, qui justement est le plus anti-gaulliste philosophiquement qu'on puisse faire, se revendique aussi de De Gaulle, en oubliant que De Gaulle, quand même, l'a dit et l'a écrit, lui était pour une démocratie participative. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il aurait presque pu être de gauche, De Gaulle, du reste.
C'est pas faux. Eh bien, merci, messieurs, à Jimmy Delidou, syndicaliste, mais également auteur. Merci infiniment, à très bientôt. Vous reviendrez retaper sur le gouvernement là, avec la même idée.
Avec plaisir, Adil.
En fait, dès qu'il saisit l'occasion, le gouvernement est là.
Il a des arguments en même temps.
Je parle juste de des hijabeuses, ils dérivent vers le gouvernement.
Il a défendu la laïcité,
chers amis.
On a parlé de laïcité.
Je rigole, je le taquine.
Là, je suis 100% d'accord avec vous.
Je le taquine, mais bien évidemment, quand je dis en toute liberté de ton. Vous êtes vraiment en toute liberté de ton ici, non?
J'étais syndicaliste aussi, Adil.
Comment?
J'étais syndicaliste aussi, quand même.
Syndicaliste aussi, syndicaliste notre aussi. Ex-commandant de police.
Ouais, j'étais syndicaliste.
Auteur, allez le voir, sa pièce de théâtre. Samedi, il faut aller le voir. Le One Man Show, c'est ça?
Seul en scène.
Un policier avec un drapeau rouge, il faut aller voir.
Il faut aller voir ça. Vous allez aller le voir, Jimmy?
Ah, pourquoi pas?
C'est vrai?
Un policier avec un drapeau rouge, ça vous.
Allez le soutenir. Allez, rappelez-nous tiens l'adresse.
Darius Milhaud, théâtre du Darius Milhaud dans le 19e, du côté de la porte de Pantin.
Moi je dis, il faut aller le voir. Faut y aller. Faut soutenir notre ex-commandant de police atypique. À la réalisation, c'était Giovanni. Au standard 0153483020. Demain, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Dans une poignée de minutes, c'est Bilal Lenman et le Timesport 2021. À demain, vous le savez, avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao!
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.